Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et comme chaque dimanche, nous allons solutionner vos petits tracas avec les végétaux dans votre jardin, sur votre jardinière, ou pourquoi pas, puisqu'on l'a vu dans les infos, sur le petit bout de trottoir que vous êtes en train de végétaliser avec l'autorisation de la ville, par exemple. En tout cas, lui, il est là pour nous donner ses conseils, prodiguer que des bonnes nouvelles. C'est Philippe Munier, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Tout va bien, on se dit dimanche, et on peut dire digne d'un mois de juin.
Oui, alors c'est un beau dimanche ensoleillé, c'est vrai, et puis c'est vrai que le dimanche quand il fait beau, c'est quand même beaucoup plus agréable, et puis pour aller au jardin, ça va être bien. Il y a eu de l'eau, il y a de l'humidité la nuit, parce que la température tombe quand même la nuit, hein, il fait encore frais quand même. Ceux qui veulent mettre les tomates dehors, ne vous énervez pas trop, parce qu'il faudrait qu'il fasse 9-10 degrés la nuit. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à 6-7. Donc faites attention, elles vont attraper un rhume, vos tomates. Donc voilà, on fait attention, mais par contre, pour aller passer la binette, il n'y a pas de problème, le temps est idéal.
Le temps idéal pour la binette, voilà le mot ordre de ce dimanche.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Vous avez une heure pour poser vos questions, comme le fait Monique qui nous attend à Saint-Armel. Bonjour Monique.
Bonjour.
Et bon dimanche à vous Monique.
Merci, et vous aussi.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, alors moi c'est à propos de carottes. Mon mari il sème des carottes en novembre, sous châssis. Et lorsqu'arrive le mois d'avril-mai, il y en a beaucoup de montées. Alors je voulais savoir ce qu'il en pense Philippe.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi elles montent?
Alors déjà parce que la carotte c'est une bisannuelle, donc c'est une plante qui normalement justement fait ses réserves, donc la racine charnue la première année et la deuxième année qui fleurit. Donc là ça, même si on la plante tard, il y a l'hiver qui passe par là, et donc pour la plante l'hiver ça veut dire tiens, l'année dernière j'ai fait des réserves, donc cette année après l'hiver je vais faire des fleurs. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose c'est aussi je pense et surtout je dirais une erreur de variété. Il y a des variétés qui sont des variétés plus de printemps, comme toutes les variétés à forcer. Il y a des variétés qui sont des variétés d'automne, hein, comme celle que devrait semer votre mari. Alors, je les ai plus en tête par cœur. Ne me demandez pas, j'ai plus tout en tête par cœur.
Il sème la Nantaise améliorée.
Alors voilà, la Nantaise améliorée, c'est la carotte typique à semer maintenant. C'est vraiment la carotte de pleine saison, celle qu'on va semer grosso modo entre le 15 avril et le 15 juin. C'est celle qui vont permettre de faire la première production, donc pour les premiers semis d'avril, la première production d'après l'été. Et puis celle qu'on va semer au mois de juin, c'est celle qui vont faire la production hivernale. Donc c'est vraiment le plein boom. Par contre, il existe des variétés moins connues, et c'est pour ça que les noms m'échappent, mais je vais chercher pendant l'émission, puis si je trouve, je donnerai l'info avant la fin de l'émission. Et il existe des variétés qui sont spécialisées pour effectivement les productions d'hiver. Il n'y en a pas beaucoup des variétés pour les productions d'hiver, mais il y en a quelques-unes qu'on peut trouver. Donc je vais me renseigner, je vous dirai donc, ça, voilà, j'espère, avant la fin de l'émission.
Restez derrière le poste, comme
d'accord,
on dit,
merci.
Monique. Et donc la solution, c'est évidemment de bien choisir sa variété, de la semer au bon moment. Monique, merci, nous allons à Ambon avec Joël, bonjour.
Bonjour.
Alors Joël, qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai un jasmin étoilé.
Oui.
Et que j'ai planté dans un grand bac. Et mon jasmin, il fleurit en ce moment, mais il a ses feuilles, elles sont jaunes et rouges, au lieu d'être vertes comme je l'ai acheté. Et voilà. Et puis en plus, il ne grandit pas.
Bon, alors c'est évident que votre jasmin il souffre énormément. Ça c'est typique. Coloration verte et rouge. Vert généralement c'est un manque d'alimentation. Rouge c'est un problème de fixation de la potasse. Donc ça veut dire que c'est une plante qui souffre du froid sans doute, qui souffre peut-être d'un manque de drainage dans la jardinière. Et donc comme il y a de l'eau qui doit stagner, ça lui fait pourrir les racines. Donc au fur et à mesure que les racines poussent, elles pourrissent. Donc effectivement forcément il peut pas être en pleine forme. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors la solution c'est on peut le faire, c'est un petit peu limite, mais de toute façon, une plante qui souffre, il faut tout faire pour essayer de l'empêcher de souffrir, parce que sinon, elle va mourir, et puis c'est dommage, parce qu'un jasmin, c'est sympa. Donc, vous tentez le coup, vous sortez tout le monde du bac, délicatement, évidemment, faut y aller avec des doigts de fée. Vous regardez un petit peu si le fond du bac est bien troué pour que l'eau en excédent puisse s'en aller. Vous vérifiez que vous avez bien pensé à faire un drainage au fond du trou qui fasse au moins le quart de la hauteur, minimum. Hein, l'idéal, c'est le tiers, mais le quart, bon, c'est déjà pas mal. Donc, quand je dis un drainage, c'est des billes d'argile, c'est des gros cailloux. Il ne faut pas de sable fin, hein, évidemment, sinon ça va colmater. Après, sur ce gros drainage, vous mettez ce qu'on appelle un feutre géotextile. Ce sont des feutres qui laissent passer l'eau, mais qui empêchent les racines de descendre. Ce qui fait que les racines du jasmin, elles ne vont pas les bloquer le drainage. Parce que ce qui se passe quand on met un drainage et qu'on ne met pas le feutre, c'est que la première année, les trois premières années, ça marche super bien. Et puis, d'année en année, avec les arrosages, ben, la terre, tout doucement, et les racines emmènent la terre dans les gros cailloux, et ça bloque les cailloux, ça empêche la circulation de l'eau. Et au bout de 4-5 ans, ben, c'est comme si on n'avait jamais mis de drainage. Donc, il faut absolument mettre.
L'année dernière.
Oui, mais là, peut-être vous avez oublié de faire le drainage et peut-être vous avez beaucoup arrosé et peut-être vous n'avez pas mis le feu de géotextile. Voilà, donc vous mettez le géotextile dessus, puis vous remettez un très bon terreau, bien aéré, hein. Il ne faut surtout pas que ce soit quelque chose de très compact, hein. En général, l'idéal, c'est un tiers de sable, un tiers de terre de jardin, un tiers de bon terreau universel, hein. C'est un bon mélange pour les plantes en pot. Et puis vous replantez votre jasmin étoilé. Vous faites attention surtout à ne pas trop arroser. On a toujours tendance à trop arroser les plantes. Il faut leur donner à boire, mais il ne faut pas les noyer, et puis théoriquement ça devrait repartir.
Voilà, merci.
Trois semaines là, donc il ne va pas être trop arrosé.
Merci à vous en tout cas, ça va le faire, vous inquiétez pas. Bonne journée à vous Joël, et bon dimanche. Martine à Rennes, bonjour.
Bonjour Daniel, et bonjour Philippe.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Ben moi, ce qui m'arrive, c'est tout à fait bien. J'avais acheté un curry alimentaire l'année dernière. Et puis, il prend de l'ampleur. Maintenant, il est plein de boutons dont la floraison, ça va être pour tarder d'ici 8 jours. Alors, quand la floraison va être terminée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le couper comme du thym. Est-ce que je peux le faire sécher?
Alors, quand vous dites curry alimentaire, c'est la plante à curry, hein, c'est les lycrises,
qui a une
bonne odeur de curry, qui est une très très jolie plante. Alors effectivement, quand la plante est défleurie, vous coupez de manière à empêcher qu'elle se fatigue à faire des fruits. Puis en plus, c'est pas très joli en fin de floraison, donc il vaut mieux effectivement bien tailler en gardant un petit peu de feuilles, hein, pour que ça redémarre. Et puis du coup, pendant l'été, il va être magnifique. Ça sent bon, c'est vraiment un régal. Mais et puis vous pouvez sécher pas les fleurs, c'est pas très intéressant, mais la partie les feuilles, et puis en mettre un petit peu dans la cuisine.
Ma
petite dose parce que c'est très fort.
Hein. Est-ce que je peux faire des boutures avec actuellement?
Alors s'il est en pleine fleur, théoriquement non. Les boutures, on les fait plutôt au printemps, juste avant la floraison, ou alors vous les ferez en fin d'été.
Ah d'accord.
Et ben voilà,
à partir du 15 août, il n'y a pas de problème. C'est une très belle plante et ça sent trop bon au jardin.
Et c'est du vrai curry ou enfin
ça a l'odeur du curry, voilà, mais ce n'est pas.
Voilà, c'est un approche, mais ça fait l'effet en tout cas.
Le curry, c'est un mélange d'épices, hein. Donc voilà.
Mais en tout cas, on peut l'utiliser. C'est une bonne chose. Voilà.
Oui, il prend de l'ampleur, ce truc.
Bon, et vous nous faites une recette avec et vous nous l'apportez, Martine.
Du riz ou du poisson.
Exactement. Bon, on sera là avec Philippe. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a aucun problème. Merci. J'ai ma fourchette dans ma poche.
Voilà, tout est prêt. Toujours. Il ne se déplace jamais sans sa fourchette et son couteau.
Jamais.
Évidemment.
On sait jamais.
On sait ce que c'est. On va faire une petite pause en musique et puis on retrouve vos autres questions au 02 99 67 35 35 Jardin Bleu sur France Bleu Armorique.
France Bleu. France Bleu, aux côtés de la SNSM. Parole de sauveteur.
Je m'appelle Yann et ça fait plus de 15 ans que je suis à la SNSM. J'étais marin de commerce et mon cousin qui habitait Dijon est devenu marin pêcheur puis propriétaire de son bateau, donc je me suis senti à l'aider, lui et tous ses collègues et tous les plaisanciers. En tant qu'ancien marin de commerce, donc voilà, je me sens solidaire avec tous ceux qui sont en mer et ayant fait le tour du monde plus d'une fois, donc on a toujours essayé d'aider les autres.
Les 50 ans de la SNSM. Coup de chapeau aux sauveteurs en mer. Sur France Bleu. Les meilleurs pilotes de motocross du monde vous attendent en terre mayonnaise sur le circuit du Motoclub d'Ernée.
Plus de 250 pilotes vous donnent rendez-vous les 27 et 28 mai à Ernée pour le Grand Prix de France de motocross. Comptant pour le championnat du monde 2017.
Plus d'infos sur motoclubernée.com.
France Bleu Armorique, tous les jours avec vous.
Again avec Bernard Lavillier sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et bien sûr, vos questions 02 99 67 35 35 avec Elisabeth qui est à Mort-de-Bretagne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Daniel et bonjour Philippe. Alors, j'ai une petite question donc pour Philippe. Ouais. J'ai planté mes tomates cette semaine. Apparemment, j'ai peut-être fait un peu trop tôt, mais j'aurais voulu savoir si je pouvais pailler avec du BRF.
Oui, oui, il n'y a aucun problème. Il faut faire attention. En fait, il faut que votre BRF il soit déjà bien composté. C'est-à-dire que s'il est tout neuf, hein, si c'est du bois qui vient d'être broyé, il va se passer ce qu'on appelle un phénomène de fin d'azote. C'est-à-dire que dans le bois, il y a beaucoup de carbone, il n'y a pas d'azote. Et les bactéries et les champignons, pour se développer, ils ont besoin d'azote. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont piquer, si je puis dire, l'azote des plantes qui sont là pendant quelques semaines, le temps de se développer. Puis après, ils restituent l'azote. Mais en général, la plante, elle a eu le temps de mourir. Donc, il faut, surtout quand on met des copeaux de bois, du BRF, au pied des des plantations, des plantations d'une manière générale après le mois de janvier, hein, particulièrement après le mois de mars, il faut absolument qu'il soit bien composté, c'est-à-dire qu'il ait déjà eu un début de transformation par les bactéries et les champignons, et que du coup il ne provoque pas ce phénomène de fin d'azote qui serait fatal pour vos tomates.
D'accord.
Voilà.
Donc il est peut-être un peu trop jeune là.
Alors s'il est trop jeune, mettez plutôt une bonne paille broyée, ça suffit largement.
Oui, il est peut-être un peu trop jeune. Mais je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Allez, bonne journée, au revoir.
Juste pour les novices comme moi, le BRF, je crois que ça veut dire bois raméal fragmenté, c'est ça?
C'est ça. Donc ouais. le bois raméal, c'est donc les rameaux, hein.
Ouais, c'est ça.
C'est toutes les branches qui font moins de 5 cm de diamètre, hein. Et c'est un système qui a été inventé, si je puis dire, au Québec et ensuite développé un petit peu partout en Europe. Donc il y a un protocole bien spécifique, un vrai BRF, il doit être coupé et broyé l'hiver, justement, pour être mis en place l'hiver, en fin d'hiver, on va dire, au plus tard fin janvier, de manière justement à ce qui est ce premier travail entre le sol et le paillage qui se fasse avant qu'on puisse commencer les plantations à partir de la mi-mars, grosso modo. Et il y a des résultats tout à fait étonnants. Alors c'est particulièrement adapté à des régions avec des sols très, très peu profonds et suffisamment chaudes. En Bretagne, où on a des sols profonds, des températures pas très chaudes toujours et parfois de l'humidité, ça peut être dangereux parce que justement il y a des proliférations de champignons.
Voilà, et ben merci des explications. Nous allons accueillir André qui est à Marseillais. Robert, bonjour André.
Oui, bonjour.
Alors, votre question.
Alors moi, comme ma pelouse, elle est grillée pas mal. L'été dernier, il a fait très sec. Et quand il avait replu, elle est repartie.
Ouais.
Et puis il y a un endroit, elle n'est pas repartie. Je tirais sur l'herbe et ça décollait du sol. Et hier j'ai enlevé des mauvaises herbes dedans parce que c'est les mauvaises herbes qui ont pris un peu l'ampleur. Et j'ai trouvé des gros vers blancs avec la tête orange et le bout de la queue grise.
Oh, ils sont jolis.
Ils sont peut-être jolis, mais je me demande si c'est pas eux qui ont mangé les racines de ma pelouse.
Alors, je pense que c'est tout à fait le cas, donc il n'y a pas de problème,
hein, c'est ça.
Si c'est des gros, c'est des hannetons, si c'est des petits, c'est des oturinques, mais dans tous les cas, de toute façon, c'est la même famille, c'est les coléoptères, donc ils ne sont pas tous méchants. Dans les coléoptères, il y a la coccinelle, hein, qui est super sympa, et puis il y a la cétoine ou la lucane, qui sont des gros coléoptères qui mangent que du bois, donc il y a du bois pourri même en plus, donc c'est super. Mais par contre, le hanneton, il n'est pas sympa. Il mange des racines de pelouse, d'arbres, de légumes aussi. Donc il est moins sympathique, même s'il commence à disparaître de plus en plus. Donc il ne faut pas non plus les tuer tous. Mais quand il boulotte la pelouse sans autorisation, il faut faire quelque chose. Alors il y a plusieurs solutions. Soit vous avez une surface raisonnable, on va dire, en gazon. Et là, il existe un produit de lutte biologique qui se développe énormément parce que dans la mesure où les espaces publics n'ont plus le droit d'être traités avec des produits chimiques, beaucoup de solutions alternatives ont été développées ces 4-5 dernières années, et particulièrement les nématodes, qui sont des petits vers qui sont naturellement présents dans le sol, mais que là on élève en fermenteur spécifique. Et donc, quand on apporte avec un arrosage ces nématodes en grande quantité sur une surface de pelouse, la première chose qu'ils font, c'est de rentrer dans le sol et de chercher ces vers pour leur rentrer dedans, pondre à l'intérieur. Et ça, le ver, il aime pas ça, ça le fait mourir. Donc, ça permet de liquider les vers. Ça a un coût, qui diminue d'année en année, mais ça a un coût quand même. Et c'est pour ça que vaut mieux avoir une surface raisonnable. Donc, vous allez à votre jardinerie habituelle, vous leur parlez de hanneton, vous pouvez même leur amener une larve si vous voulez, et puis vous dites, je voudrais des nématodes qui me liquident ça. Ils vont vous aider à faire le choix du produit, ils vont le commander, parce qu'ils ne l'ont pas en magasin, c'est du vivant, donc il ne faut surtout pas le stocker, ils vont le commander, et ça arrivera directement chez vous, par Colissimo, et le jour où ça arrive, il faudra que vous soyez là, parce que comme c'est du vivant, il faut s'en occuper immédiatement. On le mélange, donc ça fait comme une poudre, mais c'est des petites bébêtes vivantes, donc on les mélange dans de l'eau, on arrose la surface à éradiquer, où on a besoin de limiter les petits vers, et puis ensuite le but du jeu, mais c'est assez marqué sur le mode d'emploi qui est très très bien fait, le but du jeu après c'est de faire très attention à ce que la zone en question reste toujours bien fraîche, pas détrempée non plus, mais fraîche, parce que les bestioles, elles se déplacent dans des petits films d'eau, si ça dessèche elles sont bloquées et elles meurent, donc il faut vraiment les aider à travailler si vous voulez avoir un bon résultat. Mais ça marche bien, le prix est pas trop poneyreux. Je ne vais pas vous dire que c'est gratos, hein, loin de là. Mais c'est, disons que le rapport qualité-prix n'est pas inintéressant.
Voilà, et puis c'est vraiment efficace, a priori.
C'est, ça.
C'est une question qui revient souvent sur ces fameux vers blancs, les nématodes. Voilà, merci pour votre question, André. Puis j'espère que vous allez trouver la solution, surtout. On vous souhaite une belle journée. On accueille Francis, qui est à Cancale. Bonjour.
Oui, bonjour à vous deux.
Alors, Francis, qu'est-ce qui vous arrive ?
Ben écoutez, j'ai une fausse information, mais dans mon jardin un cyprès d'Italie qui pousse. Alors, je ne sais pas si ça a une influence sur la floraison et sur la fructification de mes arbres fruitiers autour. Voilà, c'est un peu la question que je me pose. Il me semblait avoir lu quelque chose dans ce sens-là, mais je ne sais pas trop.
Alors, Philippe.
De toute façon, ce genre d'arbres, hein, qui sont des arbres très puissants, qui ont des enracinements superficiels, ce sont des pompes à eau, donc ils vont concurrencer forcément les arbres fruitiers autour en leur piquant la flotte, donc les empêchant de se développer. Et puis en plus, pour ceux qui sont dans la colonne de lumière, si je puis dire, ils ont de l'ombre une partie de la journée, ce qui là aussi n'est pas terrible pour les arbres fruitiers. Il n'y a que le pommier qui supporte l'ombre, les autres, que ce soit prunier, poirier, cerisier, ils ont besoin d'énormément de lumière. Donc, la présence d'un gros arbre au milieu d'arbres fruitiers, c'est forcément, quel qu'il soit, c'est forcément toujours embêtant, mais c'est d'autant plus embêtant quand il s'agit d'un arbre à feuillage persistant, parce que l'ombre, elle est toute l'année, et d'autre part, quand c'est des résineux, parce que c'est des enracinements superficiels, donc ce sont les premiers à pomper l'eau, et ce qui fait que les fruitiers qui ont des enracinements plutôt plus profonds, eh ben, ils sont privés d'eau, et du coup, forcément, ils fructifient beaucoup moins bien.
Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai des arbres qui font il est assez éloigné, hein, des arbres fruitiers et tout ça. Il n'y a pas d'ombre, il fait 4 mètres, pas plus. Mais ce que je me posais la question, c'est que est-ce qu'il agit pas sur le pollen, c'est-à-dire que est-ce que les fruits au bout d'un moment ne tombent pas à cause de lui et les fleurs?
Non, ça non. S'il est suffisamment loin, il n'y a pas de problème. Les cyprès fabriquent des hormones, hein, la tujone en l'occurrence, qui est une hormone désherbante, mais c'est juste autour d'eux. Hein, c'est pas, ça ne va pas jusqu'à 4-5 mètres. Hein, s'il n'y a pas d'ombre portée, s'ils ne montent pas plus haut que 4 mètres, il n'y a pas de problème. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Après, tout dépend comment il a placé son enracinement, mais il ne devrait pas y avoir de problème, non.
Bon, voilà, Francis, voilà,
rassure. Merci quand même, ça me rassure, pour éviter de le couper, surtout.
Ah bah oui, il ne faut pas faire ça, Francis. Merci de la question, bonne journée à Cancale, Francis. Moi, j'aime bien l'expression, il est loin, si près, mais loin, en fait, voilà. C'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, en tout cas, voilà les conseils. On fait une pause en musique, et puis on retrouvera Jean-Pierre, tout à l'heure, qui a un lilas, et qui voudrait savoir à quel moment couper les vieilles grappes de fleurs, Odile, avec des petits pois... à quelle période on les sème? Ah non, les petits poissons rouges, c'est dans l'aquarium. Et Sylvaine, qui a des rosiers, qui font des drôles de roses. On verra tout ça. On a le temps de cogiter pendant 3 minutes. À tout de suite.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins en mai. Cherchez pas les petits prix, ils font le pont. Et puis il y a la paire qui est toujours sur le pont avec ses festiprix.
Jusqu'au 29 mai, profitez des festiprix la paire, comme par exemple jusqu'à 25% de remise sur les meubles de salle de bain.
Moins 25% sur les meubles de salle de bain. La paire, c'est sûr, il n'y en a pas deux.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
Prédateur, un jour je suis la proie, un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme, je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines, personne ne voit.
Sur France Bleu Armorique, au cœur de moi, il est 9h34.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et vous passez bien sûr par le 02 99 67 35 35. Il y a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Jean-Pierre, à Fins, en Ille-et-Vilaine, bonjour.
Oui, bonjour à tous, à toute l'équipe. Moi, je vous appelle pour un lilas qui est en train de se défleurir, donc un lilas blanc. Je voulais savoir à quel moment on doit couper les grappes.
Alors, on coupe les grappes au fur et à mesure qu'elles fanent, parce que d'abord c'est pas joli, d'autre part, s'il pleut sur des grappes comme ça, ça fait du poids et ça peut casser les branches. Hein. J'ai vu ça la semaine dernière, un très beau lilas qui, sous le poids de la pluie dans les fleurs, a éclaté complètement. On coupe au fur et à mesure, mais il faut pas couper que les fleurs, faut descendre un petit peu plus bas. Si vous regardez bien, en fait, sous la fleur, en général, il y a au minimum 4 paires de feuilles ou de bourgeons. Il faudrait descendre idéalement en dessous du troisième de manière à redensifier, à aider la plante à se densifier, parce que sinon le lilas il a toujours tendance à grimper vers le soleil, mais du coup à se dégarnir du bas, devenir moins élégant, tout le longiligne, c'est moins sympa. Donc pour l'inciter à se redensifier, il faut descendre, je vous dis à peu près à la troisième paire de feuilles sous la rampe florale, et vous le faites au fur et à mesure que les fleurs fanent, c'est-à-dire grosso modo maintenant quoi.
Voilà.
Et puis éventuellement vous lui nettoyez un petit peu aussi le centre pour que l'air circule bien. Il y a souvent des branches qui ont tendance à partir vers le cœur de l'arbre et à donc bloquer la circulation de l'air. Donc ces petites branches là vous pouvez les supprimer aussi, et ça donne de l'air et ça permet là aussi à la plante de mieux végéter. Surtout un lilas blanc qui a tendance, les fleurs ont tendance un petit peu à noircir ou à devenir marron au premier coup de pluie ou au premier coup de gel. Ça permet de faire circuler l'air et du coup ça évite ce genre de problème.
Et ben voilà.
Eh ben très bien, vous avez répondu à
ma c'est super.
Question.
Mais c'est super. Bon, merci Jean-Pierre.
Bonne
journée à vous tous. Bon dimanche. À Longueux, près de Saint-Brieuc, Odile est avec nous. Bonjour Odile.
Bonjour Philippe, bonjour Michel.
C'est Daniel, monsieur pareil.
C'est pas grave, c'est parce que dans l'hiver...
Ma mère a failli m'appeler Michel, donc il n'y a pas de mal. Alors, votre question...
Moi, voilà, j'ai semé deux fois des petits pois et ça n'a rien donné. Alors, est-ce que c'est encore temps ou maintenant ça serait un peu trop tard?
Non, il n'y a pas de problème à semer des petits pois. Des petits pois, on peut en semer, surtout en Bretagne Nord, quasiment toute l'année. Hein. Par contre, il faut adapter les variétés. C'est un peu comme les carottes dont on parlait tout à l'heure. Il faut adapter les variétés à la période. Donc là, il commence à faire chaud. Ça fait même pas mal de temps qu'il fait chaud. Un peu trop sec. moins maintenant. Donc on est sur toute la période où on peut semer des petits pois à grains ridés, qui sont ceux qui supportent la chaleur. Par contre, lorsque... Oui ? Voilà. Donc, vous prenez donc des variétés à grains ridés. Après, vous faites le choix. Est-ce que vous prenez des variétés naines ou des variétés rames? Ça, c'est un autre problème. L'avantage des variétés rames, c'est que ça produit plus sur moins de surface. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des rames. Mais voilà. Et puis après, lorsque vous arrivez, on va dire, au mois de septembre-octobre, bah, vous plantez des variétés à grains ronds, hein, qui vont supporter le froid de l'hiver. Et puis, on peut les semer en plein hiver. On peut semer un pois qui s'appelle Caractacus, qui est à peu près le seul qu'on peut semer en plein hiver, mais qui va donner dès le début du printemps, qui commence à donner maintenant là, donc des début mai, à partir du début mai, et puis après, donc jusqu'au mois de grosso modo fin mars début avril, on sème des pois à grains ronds et on redémarre après à partir de mi-avril avec des pois à grains ridés et ainsi de suite. Donc allez-y sans problème, et on peut avoir des petits pois dans le jardin quasiment toute l'année en Bretagne Nord.
Voilà.
Merci beaucoup.
Gros bisous, bonne journée. On va juste revenir sur justement les fameuses carottes, Philippe, puisque la Monique, notre première auditrice de Saint-Armel, nous a interrogé tout à l'heure, vous a interrogé sur ces carottes qui montaient, et il existe donc différentes variétés et vous avez pris tous les renseignements.
C'est ça. Alors j'ai évidemment enlevé toutes les variétés hybrides qu'on me proposait, hein, et je n'ai gardé que les variétés fixées, hein, celles qui ont été améliorées, fabriquées par les jardiniers pendant des centaines de milliers d'années. Donc voilà. Donc j'ai sélectionné pour des cultures forcées, donc à partir d'octobre-novembre, la variété courte améliorée à forcer. Alors il y en a une qui est un petit peu plus adaptée, qui est plus récente, qui s'appelle courte améliorée à forcer, race Tamba, T-A-M-B-A. D'accord. Voilà. Vous avez la Nantaise à forcer, qui marche très bien. Vous avez aussi la 40 ans. Voilà, la de 40 ans, donc c'est dans le département de la Manche, et c'est aussi une très belle terre à carottes. Oui. Voilà. Et donc avec celle-là, et éventuellement la carotte de Vertou, hein, qui est beaucoup plus difficile à trouver. J'ai regardé si on trouvait de la semence, et en fait on ne la trouve qu'auprès de particuliers, on n'en trouve pas directement en magasin. Mais voilà, c'est ces variétés-là qui sont plus adaptées. Et il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention, que je rappelle, c'est que vu les carottes, donc ce type de semis d'automne, de fin d'automne, qui sont sous châssis. Dès que les feuilles touchent le châssis, il faut absolument aérer au maximum, parce que si la feuille a trop chaud, ça provoque la montée à graines, ce qui peut expliquer peut-être le problème de notre auditrice.
Ouais, et du coup, les carottes sont cuites et c'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Voilà pour la réponse. Et on accueille maintenant Sylvaine qui est à Sainte-Hélène. Bonjour.
Allô, oui, bonjour.
Vous êtes avec nous.
Ouais, merci. Je vous appelle parce que j'ai deux magnifiques rosiers qui s'appellent Souchon, Alain Souchon, je pense, qui sont très, très parfumés. Et la première année, ils m'ont donné des roses absolument fabuleuses. Et là, depuis 2 ans, ils me font ce ne sont pas des roses, ce sont des galettes. C'est-à-dire, on dirait des blinis. Hein, l'épaisseur du blinis, et c'est très très serré, les pétales sont très très serrés, et quand je les laisse grandir comme ça, ils sortent plusieurs petits pistils de ce milieu, comme s'il y avait plusieurs petites roses serrées dans cette galette. Je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai plus mes belles roses. Je comprends pas. Voilà.
Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que ça dégénère, entre guillemets? Qu'est-ce qui se passe?
Non, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit un problème de dégénérescence. Je pense que c'est soit un problème d'orientation, soit un problème de nutrition, et peut-être les deux. Les rosiers très doubles, comme le rosier Alain Souchon, hein, qui est donc un cœur très très serré, très double, sont des rosiers qui aiment pas l'eau, parce que effectivement, quand l'eau rentre à l'intérieur, ça pourrit et ça empêche le développement harmonieux de la fleur, ce qui expliquerait peut-être cette forme de galette s'ils ont tendance à s'ils sont placé à l'ouest et qui ramasse beaucoup d'eau. Ce type de rosier-là, on a intérêt toujours à les planter à l'est, parce que l'est, ça apporte très peu d'eau. Hein, c'est rare qu'ils peuvent, l'eau vienne de l'est. Et donc, ça permet aux roses d'être protégées. Donc, si on, par exemple, on met autour de la maison et qu'on met bien à l'est, ça permet donc d'éviter que les pluies d'ouest ne rentrent dans les boutons qui commencent à s'ouvrir et que ça bloque et que ça fasse pourrir. Donc, il y a ça d'une part, l'exposition. Et puis, d'autre part, la nutrition. Il faut faire attention de ne pas trop nourrir ce type de rosier, surtout pas. Hein, parce que justement, quand on les nourrit trop, les engrais ou un excès de compost, même un excès de compost, peut provoquer une limitation de la capacité à fleurir de la plante. Ce qui fait qu'elle veut fleurir, mais elle n'arrive pas à épanouir ses fleurs complètement, parce qu'un excès d'azote va bloquer la floraison. Donc faire très attention, ces rosiers-là, il faut qu'ils aient un petit peu de compost, qu'on va leur apporter en général le jour de la taille, quand on fait la taille à mi-mars, mais c'est pas des grosses quantités. Il faut faire très attention, même si les fleurs sont un petit peu sont un tout petit peu moins jolies, pas d'un beau vert bien brillant, etc. Si vous voulez avoir des belles fleurs bien épanouies, il ne faut pas qu'ils soient trop nourris. Il faut faire très très attention à ça. Et là, vous retrouverez votre belle rose bien bien ouverte, bien bien densément, avec les pétales bien densément tordus dedans, et puis son parfum délicieux.
Voilà, comme au premier jour. Merci pour cette question, Sylvaine. Je ne sais pas si on a le temps de prendre Jean-Michel. Jeanne-Michel. Ah bah, ça y est, Jeanne-Michel, voilà. Qui est avec vous. Je vous cherchais. Vous êtes là, à Saint-Malo.
Je suis là, je quitte pas, je suis au bout du fil.
Alors,
vous
écoutez
pas.
C'est à vous.
Bonjour à toute l'équipe. Oui, j'ai acheté des christophines et il y en a une qui s'est mise à germer et qui m'a fait une petite barbichette juste à côté du germe. Alors, c'est pour savoir si je dois la planter entière ou si je dois enlever la pulpe.
Ah, il faut absolument la planter entière. Hein. Ça, c'est très très important. La christophine, c'est une courge vivipare entre guillemets. Hein, donc, il faut vraiment planter la totalité du fruit. Et c'est en fait le noyau le jeune plant vont se nourrir de la chair de la christophine pour démarrer. Et une fois qu'ils auront bien démarré, à ce moment-là, ils mettront leurs racines dans le sol. Mais au début, c'est le fruit qui les nourrit. D'ailleurs, en général, c'est le rôle d'un fruit. Hein. La pulpe d'un fruit, c'est pour nourrir le jeune plant, le jeune embryon. Et faites attention, la christophine, c'est une liane très très puissante. Oui. Donc, si vous la plantez dans le jardin, prévoyez un bon support. Comme ça aime la chaleur, c'est quand même une courge d'origine tropicale. Ça aime bien la chaleur. Donc, l'idéal, c'est quand même de les mettre soit sur une façade au sud, soit dans un tunnel. Mais dans tous les cas de figure, il faut bien bien palissader, parce que c'est une liane très puissante et qui est assez volubile. Par contre, c'est très productif aussi. Et ça fait plein plein de christophines dès la première année.
Eh ben super, voilà.
Et je la plante comment, par contre? Parce que elle a c'est son début de racine, c'est une petite barbichette, et la liane sort par le même orifice. Alors, est-ce que je la plante couchée? Est-ce que je la recouvre complètement de terre ou quoi?
Alors, en fait, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est... Et oui, on est presque un peu tard, parce que il vaut mieux que ça soit démarré le plus vite possible pour avoir le temps de faire son cycle végétatif. Mais ce que vous pouvez faire, c'est la planter dans un pot assez grand, un pot d'au moins 2 litres, et la garder un petit peu à la maison pour qu'elle profite vraiment de la chaleur. Les nuits sont encore fraîches. Hein, donc, vous la gardez à la maison et effectivement, vous ne plantez que la moitié du fruit couché, on va dire, grosso modo, à 45 degrés, hein, de manière à ce que le fruit ne soit pas enterré, que les racines soient dans le sol et que l'embryon soit à l'extérieur. Et puis, lorsque tout ça va bien démarrer, d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça sera largement temps de le mettre en place. Hein, la terre sera bien chaude, vous préparez un endroit avec un bien amendé, avec un bon compost, parce que comme c'est une courge, c'est un petit peu gourmand, et vous la mettrez là, donc un endroit vraiment plein soleil, il faut vraiment beaucoup de chaleur pour avoir un joli plant.
Et ben voilà, en tout cas, bon courage, et puis après, quand vous récolterez, vous nous remercierez Philippe, merci Jeanne-Michel. On fait une pause, on retrouve tout à l'heure une question sur du pourpier, on verra des maladies sur les camélias, et puis une pelouse pas très belle.
France Bleu Armorique, on cuisine ensemble.
Et en italien, ce dessert veut dire « remonte-moi le moral », autrement dit « tiramisu ». Ah, le tiramisu, un dessert apparu dans les années 60-70. Des œufs, du sucre, mascarpone, un peu d'amaretto, un biscuit imbibé, du café froid et du cacao, le tour est joué. Mais il existe plein de variantes avec des fruits. Et vous allez nous donner vos meilleures recettes tout à l'heure dans On Cuisine Ensemble sur France Bleu Armorique. Notre invité, c'est le cuisinier Michael Chemin.
Souriez, on cuisine ensemble. France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne.
Before you go go, c'était George Michael sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
On va prendre la direction d'Arzal avec Louis qui a une question pour Philippe Munier. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Alors, votre question?
Ma question, c'est que je suis envahi de pourpier sauvage dans mon potager. Ça fait déjà au moins 3-4 ans. J'arrive pas à m'en débarrasser. Des poubelles entières, je ramasse. Voilà. Et je sais pas comment faire.
Alors déjà, première information qui va peut-être vous intéresser, c'est que le pourpier, c'est comestible et que c'est une très bonne salade, tant au niveau gustatif qu'au niveau santé. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, si au lieu de mettre des poubelles, donnez-la sur le marché à tous ceux qui ne connaissent pas le pourpier.
Et rien à côté de pousse. Hein. Ah bah oui. Alors, ben voilà.
Ça, c'est la première chose. Attendez, laissez-moi finir quand même. La deuxième chose, c'est que le pourpier, c'est une plante typiquement de soleil. C'est une plante d'origine du sud de la France, hein, et qui se développe sur des sols chauds et des sols nus. Lorsque vous paillez correctement votre potager, le pourpier ne se développe pas parce qu'il ne peut pas se développer dans un sol qui a été recouvert. Donc, il suffit simplement de pailler votre potager et le pourpier va disparaître. Gardez-en un petit coin quand même parce que c'est quand même une très bonne salade.
Voilà.
Non, mais tout l'hiver, j'ai eu une bâche noire. Mais il est revenu quand même.
Hein. La bâche noire...
De agricole.
Louis, je vous propose d'écouter Philippe ce qu'il vous dit.
Alors, la bâche noire...
Oula. Alors on a des soucis, voilà. Oui, c'est pas ce qui s'est passé avec la bâche et le pourpier. Je pense que Philippe veut nous expliquer que la bâche c'est pas comme le paillage en fait, que c'est complètement différent et que voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est en train d'essayer de retrouver Philippe. On va faire une petite pause et puis il va finir de répondre à votre question, Louis.
Hey Stéphane, vous qui connaissez bien Akena, la reine des vérandas. Elle est belle, mais un peu inaccessible, non ?
Vous plaisantez, chère madame. Pas besoin d'être née avec une cuillère en argent dans la bouche pour en profiter.
Akena, élue leader 2017 par le magazine Capital pour sa qualité de service.
Akena, la reine des vérandas.
Jusqu'à 10h, Philippe Meunier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et donc, on revient avec cette question de Louis. Donc, le pourpier, il a mis une bâche l'hiver et il a toujours du pourpier. Philippe, c'est pas la même chose, la bâche et le paillage, en fait.
Alors, d'une part, ça, et d'autre part, je pense que le fait de mettre une bâche noire sur le potager pendant tout l'hiver, ça amplifie le développement du pourpier, parce que c'est une plante d'origine donc méditerranéenne, donc qui aime les terres sèches, et du coup, la bâche noire, pendant l'hiver, ça, elle empêche l'eau de rentrer dans le sol, d'une part, donc la terre est sèche, et d'autre part, le noir, ça absorbe la chaleur, donc ça chauffe le sol en surface, ce qui fait que ça aide à la prolifération du pourpier. Donc, c'est vraiment typiquement le type de fonctionnement qui favorise encore plus le pourpier. Voilà. Donc si vous voulez supprimer le pourpier, cher Louis, eh ben, couvrez votre sol l'hiver, ça c'est très très bien, mettez du carton avec des feuilles mortes dessus, hein, ça va nourrir le sol, alors que la bâche noire, elle nourrit pas du tout le sol, et au contraire, elle dessèche le sol et elle favorise le pourpier. Donc mettez donc du carton et des feuilles mortes, et puis dès le printemps, dès les premières plantations, pailler avec de la paille, avec des paillettes de lin, avec des cosses de sarrasin, avec les tailles de haies diverses et variées. Mais gardez votre sol paillé et vous verrez, le pourpier disparaîtra.
Eh ben voilà, Louis, faut faire exactement comme ça pour le voir disparaître. Jean-Paul est à Sarzeau. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Eh bien, j'ai une pelouse, bien sûr. Et j'avais un filtre à sable pour l'assainissement individuel. Depuis 2-3 ans, nous sommes raccordés au tout à l'égout. Alors, lorsqu'il faisait sec, le filtre à sable, l'herbe jaunissait. Et là, maintenant, c'est à côté du filtre à sable que l'herbe jaunit.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est ça ?
Oui.
J'ai
une surface à peu près équivalente au filtre à sable, mais à côté. Et l'herbe jaunit.
Alors il faudrait voir comment ça a circulé tout ça. Donc l'alimentation du filtre à sable avec vos effluents, comment elle se faisait, puis savoir si au moment où vous êtes raccordé au tout à l'égout, il n'y a pas eu des modifications de réseau. Mais là, a priori, c'est plus un problème de réseau qu'un problème de jardinage. Donc là, je vous laisse plus voir avec le gars qui vous a raccordé au tout à l'égout et comment il a chinté le filtre à sable. Ou pas chanter le filtre à sable. Et puis, de toute façon, dans ce genre de cas-là, on a aussi intérêt à virer tout ce qui reste dans le sol de manière à repartir sur une base sérieuse, correcte, et puis éventuellement pouvoir planter des arbres, parce qu'au-dessus d'un filtre à sable, on ne peut pas mettre des arbres ou des arbustes, donc c'est à court de temps.
Oui, on peut pouvait rien mettre.
Voilà. Donc il va falloir voir avec la personne qui s'est occupée de
l'assainissement, voir comment il a fait ça, parce que il y a quelque chose qui me paraît pas logique dans la réaction de votre sol, mais je pense que c'est dû à une opération qui a été faite au moment de l'installation de votre assainissement.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire, Jean-Paul. En tout cas, retournez vers cette personne et puis j'espère que ça va s'arranger. Joseph, pour terminer, qui est à Baguet-Morvan. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous.
Alors, le laurier rose, qu'est-ce qui lui arrive ?
Les lauriers roses, en fin de compte, j'en ai deux. Ils ont tous les deux souffert du froid. Les feuilles sont desséchées. Alors, je voulais savoir ce que je dois engager, si je peux, ou envisager, disons. Est-ce que je dois tailler, enlever les feuilles ? Évidemment, les feuilles, c'est évident, je dois les enlever. Mais est-ce que je dois tailler ? À quel niveau du sol je dois le tailler ?
Alors, oui. En fait, il faut absolument tailler les lauriers roses, même avant le mois de mai. Hein. L'idéal, ça serait de les tailler, grosso modo, la première quinzaine d'avril, voir si... Comme cette année, il y avait des gelées tardives, mais ça, on ne le savait pas non plus, la première quinzaine d'avril, les tailler la deuxième semaine, où il y a eu des gelées tardives aussi, d'ailleurs. Donc, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le laurier rose résiste quand même plutôt pas trop mal au froid. Hein, il peut supporter des moins 8, moins 10 sans trop de mal. Donc, même si vous avez taillé, lorsque la météo annonce des gelées tardives, on protège avec un voile d'hivernage ou un voile de forçage, c'est les mêmes, hein, du P17, on protège les pieds de laurier rose les nuits où il gèle, et puis on l'enlève le matin dès que le soleil arrive dessus, de manière à ce que la plante prenne la quantité de chaleur qu'il lui faut. Il faut absolument tailler de bonne heure, hein, c'est vraiment une taille du mois d'avril, de manière à ce que maintenant il devrait être redémarré, il devrait avoir des rejets de quasiment 70 cm de hauteur. Donc dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, faites-le, mais soyez moins sévère dans votre taille que si vous l'aviez faite au mois d'avril. Vous pouvez redescendre quand même jusqu'à carrément 50 cm du sol. Je ne sais pas quelle taille ils ont actuellement. Quelle est leur taille ?
Plus d'un mètre de haut. Hein.
D'accord. Vous pouvez les descendre de moitié sans aucun problème. Hein. Et puis, vous leur apportez par contre un bon, très bon compost au pied. Les lauriers roses, il faut les arroser en début de végétation avec un engrais spécial plante méditerranéenne une fois par mois. Donc, théoriquement, c'est avril, mai, juin. En juin, on arrête. On plus d'apport de fertilisants et on diminue les arrosages énormément, parce que si vous voulez avoir des fleurs, il ne faut pas qu'il baigne dans l'eau, le laurier rose. Donc on limite énormément les arrosages et plus du tout fertilisants. Et là, ils se mettent à fleurs à partir de, grosso modo, deuxième quinzaine de juillet pour fleurir pratiquement jusqu'au gelé.
Voilà donc, Joseph, pour cette taille. On va se dire au revoir en souhaitant à tout le monde un bon dimanche. Peut-être quelques idées ou conseils, Philippe ?
Une très bonne idée, c'est qu'aujourd'hui, comme hier et avant-hier, c'est la fête de la nature un peu partout en Bretagne. Il y a plein de choses à faire, à voir, à regarder. Il y a eu plein de nuits, la nuit du musée, mais c'était aussi la nuit pour aller voir les chauves-souris. Et ça tombe bien parce que vous avez aussi au domaine départemental La Roche-Jagut, depuis le 10 mai et jusqu'au mois d'octobre, une très belle exposition qui s'appelle Nuit, une exposition conçue et réalisée par le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc dans la foulée, allez faire un petit tour, vous en saurez beaucoup plus sur ce qui se passe la nuit pendant que vous dormez.
Voilà, vous pouvez aller faire un tour d'ailleurs sur le site de Bretagne Vivante par exemple, qui vous donne les endroits où faire ces découvertes dans la fête de la nature. Merci Philippe, très bon dimanche et à la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Très bon dimanche sur France Bleu Armorique, il est 10h. L'actualité, Sarah Mansoura, bonjour.
Bonjour, Jean-Yves Le Drian va bien quitter la présidence de la région Bretagne. C'était dans l'air depuis quelques jours déjà, mais il ne l'avait pas encore annoncé officiellement. Il a annoncé finalement hier soir, en inaugurant la nouvelle gare de Lorient. Le nouveau chef de la diplomatie française passe donc le relais avec une certaine confiance. Il assure que même sans lui, la majorité socialiste à la région tiendra.
Dans quelques jours, la majorité régionale se réunira. Dans quelques jours, je réunirai pour ma part mes vice-présidents afin de déterminer le calendrier et le processus de ma succession. Je n'ai pas d'inquiétude car l'équipe que j'ai menée depuis décembre 2015 est de grande qualité. C'est une équipe pluraliste, cohérente, qui restera unie dans sa pluralité et sa cohérence.
et je suis convaincu qu'elle saura poursuivre l'impulsion que j'ai essayé de donner à la région de Bretagne depuis 2004. Je ne perdrai jamais de vue ni la Bretagne, ni l'Orient, où que je me trouve, parce que c'est pour moi un attachement viscéral.
Jean-Yves Le Drian, le président de région à l'inauguration de la gare de Lorient. Plus de trois mois après la première installation d'un compteur Linky à Rennes, la mobilisation des anti continue. Hier, une cinquantaine d'opposants à ces nouveaux compteurs électriques se sont rassemblés pour mener notamment une opération de tractage dans le centre-ville. Selon EDF,